Bonjour Noémie Coller.
Bonjour.
Et merci d'être sur RFI ce matin. Cela fait donc 3 ans aujourd'hui que votre sœur et son compagnon ont été arrêtés en Iran. Les autorités les accusent d'espionnage. 3 ans de captivité, c'est évidemment très long. Comment vont-ils ?
Alors ils vont de plus en plus mal, les dernières nouvelles qu'on a d'eux datent de lundi, ce lundi 5 mai. Ils ont pu appeler mes parents en visio sous haute surveillance comme d'habitude. On sent vraiment que leur morale décline de plus en plus, ils sont à bout de force. Le visage de Jacques est de plus en plus marqué par la détention, on sent qu'il... Ils meurent à petit feu dans leur cellule. Ma sœur nous a parlé de poèmes qu'elle écrivait dans sa tête, donc elle a confirmé qu'au bout de 3 ans, elle n'a toujours pas de quoi écrire.
Oui, des poèmes qu'elle écrit dans sa tête, ça veut bien dire qu'elle n'a ni papier, ni stylo, qu'elle n'a accès à rien de tout ça.
Absolument. Elle les écrit dans sa tête, elle les répète tous les soirs avant de dormir pour être sûre de ne pas les oublier.
Ouais.
Donc c'est des conditions toujours aussi dures. Ils n'ont toujours pas de meubles, ils dorment toujours à même le sol. Ils ne peuvent voir la lumière du jour que 3 fois par semaine pendant une demi-heure dans une cour. Si les sorties ne sont pas annulées, les contacts qu'ils ont avec l'extérieur, ce ne sont que ces appels qu'ils nous passent de manière très aléatoire, sous haute surveillance et très court. Là, l'appel a duré 8 minutes, c'est vraiment très court, et depuis quelques mois on leur fait aussi un chantage au verdict qu'on leur annonce extrêmement sévère avec des échéances qui ne se réalisent jamais.
Ça, c'est ce que vous raconte votre sœur quand vous l'avez en ligne. Elle vous dit son état d'esprit et elle vous dit ce que lui disent ses geôliers, c'est ça ?
Oui, absolument. Donc appel après appel, elle demande si on a des informations sur la libération, sur les négociations de la libération. Et elle nous dit qu'elle est terrifiée par ce verdict qu'on lui annonce dans 2 à 3 semaines. Et appel après appel, il y a toujours une autre échéance et c'est vraiment de la torture psychologique.
Oui, verdict alors qu'il n'y a, à notre connaissance et à la vôtre, pas eu de procès. Pas eu de rencontre d'avocat, pas eu de jugement et donc pas de verdict. Enfin, on ne sait rien en fait de ce qu'ils vivent et de la procédure judiciaire éventuelle qu'ils subissent.
Non, on ne sait rien du tout. Les avocats qu'on a mandatés après leur arrestation n'ont toujours pas accès au dossier, ils n'ont toujours pas pu les voir. Leur droit à la défense est complètement bafoué et on n'a aucune information fiable sur la procédure.
Ouais, vous nous disiez il y a un instant, ils meurent à petit feu. C'est ce que vous aviez dit pour alerter des sénateurs français en mars dernier. C'est de plus en plus votre sentiment, Noémie Coller.
Absolument. Leur morale décline, ils n'ont plus de force. Ils sont vraiment à bout de force. Et on est terrifiés vraiment par leur morale qui décline et leur apparence physique aussi qui se dégrade après appel après appel.
Oui, et ces appels, vous le disiez, ils sont erratiques. On ne sait pas quand vous allez être appelé. Ils sont très espacés dans le temps. Comment ça se passe ?
En moyenne, c'est moins d'une fois par mois, même si dernièrement, on a eu 2 appels avec des intervalles.
Il y avait donc
lundi,
il y a 2 jours, voilà. Et le 14 avril, c'était le précédent, c'est ça ?
C'est ça. Mais oui, c'est très aléatoire. Il peut se passer 3 mois sans qu'on ait le moindre signe de vie et sans qu'on sache pourquoi. Donc c'est vraiment au bon vouloir de leur geôlier.
Oui. Et à chaque fois, le même message, ils vous parlent très peu de temps et pour vous dire, pour vous demander des nouvelles en fait. Parce qu'eux n'en ont pas.
Eux n'en ont pas, ou alors on leur en donne. C'est vrai que l'année dernière, on leur a promis une libération imminente à plusieurs reprises et ça a brisé leurs espoirs. Et je pense que ça a contribué d'ailleurs à dégrader fortement leur morale et leur combativité.
Alors ils sont tous deux officiellement les 2 derniers otages emprisonnés en Iran, sont considérés par la France comme otages d'État. Est-ce que vous comprenez pourquoi leur captivité est aussi longue puisque nous arrivons aujourd'hui même à 3 ans ?
Pour nous, c'est vertigineux, c'est incompréhensible. On n'aurait jamais imaginé que ce soit aussi long. Après, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un acharnement particulier sur eux de la part des autorités iraniennes. Nous, ce qu'on interprète avec nos informations, c'est notre interprétation, notre hypothèse, c'est que c'est un dossier qui est particulièrement médiatisé par les autorités iraniennes et on pense que l'acharnement vient de là.
Et ce qui a été médiatisé, c'est leurs faux aveux, les aveux qui leur ont été extorqués et qui ont été filmés. C'était en octobre 2022 où ils s'accusaient d'être des espions.
Oui, absolument. Ça a été un énorme traumatisme pour nous parce que c'est à ce moment-là, on n'avait aucun signe de vie d'eux. Ça a duré 7 mois après leur arrestation et cette vidéo de faux aveux est tombée comme ça à cette période-là et ça a témoigné en fait des mauvais traitements dont ils avaient été victimes.
Oui. Ils subissent une torture psychologique, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein.
Non, il n'y a aucun doute. De toute façon, les conditions de détention en soi peuvent être assimilées à de la torture selon le droit international, notamment les règles Nelson Mandela de l'ONU sur la détention. Nous, on perçoit en fait cette pression psychologique qui s'exerce sur eux lors des appels et lors des rares visites consulaires qui leur sont accordées.
Oui, on parle de diplomatie des otages. Téhéran ferait pression ainsi pour obtenir des libérations de ressortissants iraniens ou obtenir une levée des sanctions internationales. Que vous disent les autorités françaises quand vous êtes en contact avec elles ?
Alors sur ces questions-là, elles ne nous disent pas grand-chose. C'est vrai que ouais. Nous, en tant que famille, on est gardés totalement à l'écart de ce qui se peut... de ce qui peut se jouer. On a rencontré le président Emmanuel Macron en février qui nous a donné quelques pistes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ce qu'ils veulent exactement en échange de nos proches, ça reste un mystère.
C'est un mystère total. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par les autorités françaises ?
Oui, alors on est pris en charge par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay depuis le départ. C'est vrai qu'on a attendu très longtemps à ce qu'il y ait vraiment des prises de position publiques de la part des autorités françaises, parce que pendant longtemps, on nous a demandé de nous fier à l'invisible. Depuis janvier 2025, c'est le cas. Donc effectivement, on a pas mal de répondants à l'heure actuelle de la part des élus et des autorités françaises, et c'est très important pour nous.
Est-ce que votre sœur est au courant de la mobilisation en France, puisque aujourd'hui même, pour ces 3 ans et pour marquer cette journée, une 40aine de rassemblements sont organisés dans le pays. Est-ce que vous lui en parlez quand vous l'avez en ligne ?
Oui, absolument. Ben justement, ce qu'elle nous demande, c'est des informations sur sa libération. Or, on n'en a aucune, donc c'est vrai qu'on donne tout ce qu'on a pour pouvoir la rassurer. Et la mobilisation, c'est vraiment les éléments qu'on peut lui donner pour lui faire tenir le coup. Lors du dernier appel lundi, elle nous a dit que c'était ce qui lui permettait de ne pas sombrer, de savoir qu'elle était aussi soutenue en France. Donc c'est extrêmement important.
Donc c'est extrêmement important que vous soyez là, oui. Qu'il y ait du monde au rassemblement dans les prochaines heures.
Oui.
Quel message vous vous déportez particulièrement aujourd'hui ?
Pour nous, l'important, c'est d'interpeller les autorités iraniennes sur leurs responsabilités et d'exiger, encore une fois, la libération immédiate de Cécile et Jacques.
Vous avez parlé de leur désespoir. Mmh. Est-ce que vous y croyez toujours ? Est-ce qu'il vous arrive, vous aussi, d'être découragé, Noémie Kohler ?
Découragé, oui, mais par contre, je m'accroche et nous accrochons vraiment au fait qu'ils vont revenir. Si un jour on imagine qu'ils ne reviennent pas, on s'effondre. Donc oui, on s'accroche et on garde espoir, on gardera espoir jusqu'au bout.
Les autres otages français sont revenus, donc ils reviendront.
Oui, on espère. Voilà.
Qu'est-ce qui vous aide ? Qui vous aide ? Cette mobilisation aussi, c'est ce qui vous porte, vous ?
Oui, absolument. On a de plus en plus de soutien. Les amis de Cécile qui sont très présents depuis le départ. Il y a aussi les anciens otages qui sont revenus, qui se sont tous engagés à nos côtés pour la mobilisation, ainsi que leur famille. Et énormément de soutien par ailleurs, des élus, des avocats. Oui, nous, c'est ce qui nous permet d'avancer jour après jour. Ouais.
Merci beaucoup, Noémie Kohler, d'être venue ce matin sur RFI.
Merci à vous.
Et on espère que la prochaine fois qu'on ouvrira nos micros, une colère, ce sera Cécile et qu'elle sera rentrée.
J'espère aussi.
Bonne journée à vous.